Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, le rugby n'est-il plus qu'un sport de brut ? Il y a au moins une bonne raison de préférer le rugby au foot, les coupes de cheveux des joueurs. Le monde de l'ovalie n'a pas encore cédé à la créativité débridée des coiffeurs. Pour le reste, les deux sports se ressemblent de plus en plus. Ainsi célèbre-t-on désormais les essais de la même manière que les buts, par une petite chorégraphie souvent un peu ridicule. C'est que le rugby a beaucoup changé en se professionnalisant, et pas seulement sur des questions aussi anecdotiques. L'argent qui y coule renvoie à une obligation de résultat. Plus question de perdre avec panache, il faut gagner, peu importe la manière. Par ailleurs, la mondialisation de ce sport et la circulation des joueurs a eu pour effet d'uniformiser un jeu qui revendiquait jusque-là de fortes identités. Ces évolutions ne poseraient de problème qu'aux puristes si elles ne s'accompagnaient de changements plus inquiétants. À force d'entraînement intensif, les joueurs sont devenus plus musclés, plus lourds et les chocs plus dangereux. Les commotions se multiplient. En moins d'un an, 4 joueurs sont morts en jouant au rugby. Alors le rugby n'est-il plus qu'un sport de brut ? C'est sur cette question volontairement provocatrice que nous allons entamer la discussion en compagnie de 4 invités. Anaïs Lagougine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes joueuse de rugby, ancienne internationale. Vous avez joué au rugby à 15 et au rugby à 7. Ancienne capitaine de l'équipe de France et vous entraînez aujourd'hui le Stade Français Paris, l'équipe féminine.
Tout à fait.
Pour discuter avec vous, Eric Bail, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, commentateur sportif. Vous dirigez le rugby à Canal+. Canal+, qui est le diffuseur du top 14, c'est-à-dire le championnat de France des clubs. Canal+, qui accueille un certain nombre d'émissions consacrées au rugby, dont une qui s'appelle le Late Rugby Club. Et c'est dans cette émission que la semaine dernière, j'ai vu qu'il y avait un débat justement sur la célébration des essais qui rapprocherait justement les deux sports, rugby et foot. Troisième invité, Carole Gomez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et vous allez bientôt publier une géopolitique du rugby. Et puis en duplex des studios de France Bleu à Toulouse, Philippe Callenbrun, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialiste du rugby. On peut vous lire chaque dimanche dans le JDD. Et vous avez notamment publié, c'était en 2017 aux éditions Marabout, Peur sur le rugby, enquête sur les dérives d'un sport extrême. Alors je voudrais qu'on commence par faire un premier et rapide tour de table à propos de l'actualité. L'actualité du rugby en ce moment, c'est le tournoi Destination. Tournoi masculin et tournoi féminin. On commence, si vous le voulez bien, par le tournoi masculin. Samedi, la France joue en Italie. La France est avant-dernière, l'Italie est dernière. Est-ce que la France pourrait passer dernière du classement, Eric Bail?
Le France-Italie ou le Italie-France de samedi, c'est un petit peu la finale du tournoi Destination de deuxième division, hein, entre deux équipes qui sont un petit peu larguées. La situation de l'équipe de France de rugby masculine inquiète les amateurs parce que on est en ce moment dans une spirale assez catastrophique qui rejaillit sur l'intérêt global porté par les amateurs à ce sport. On a du mal à avoir la solution pour améliorer les résultats de cette équipe. Il y a un gros débat.
En tout cas, mathématiquement, l'Italie peut passer devant la France
à l'issue du tournoi. Je n'ai pas le classement en tête parce que de toute manière, on connaît déjà le résultat du tournoi. C'est un tournoi catastrophique pour l'équipe de France de rugby masculine.
Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour l'équipe de France de rugby féminine. Anaïs Lagougine, là, la France est actuellement deuxième. Elle va aussi jouer face à l'Italie. Ce sera dimanche, l'Italie qui, elle, est troisième. L'Angleterre est assez loin devant. Si on veut avoir une équipe nationale française de rugby qui gagne, c'est chez les filles qu'il faut regarder.
Elles sont sur une très bonne dynamique, avec au moins 3 victoires en 2014, 2016 et 2018 sur le tournoi Destination de Grand Chelem. Donc voilà, avec une tournée d'automne aussi face aux Black Ferns, qui a été assez phénoménale. Donc oui, elles sont belles à voir, elles font plaisir à voir. Mais en revanche, on a aussi une équipe d'Italie qui est aussi en progression et ça nous laisse un bon match à entrevoir.
Ça veut dire que quand on doit choisir aujourd'hui, Philippe Callenbrun, entre le 15 de France masculin ou le 15 de France féminin, aujourd'hui on hésite peut-être davantage qu'on le faisait autrefois.
Oh, je ne sais pas si on hésite, mais en tout cas aujourd'hui il est certain qu'on prend beaucoup plus de plaisir à regarder un match du 15 de France féminin. Les filles jouent mieux, elles gagnent, donc il y a beaucoup d'engouement autour de cette équipe qui... ce qui donne un petit peu de fraîcheur et de regain d'intérêt pour une certaine forme de rugby que malheureusement on ne trouve plus aujourd'hui chez les internationaux garçons de l'équipe de France.
Vous voyez aussi, vous, Carole Gomez, davantage de fraîcheur chez les filles que chez les garçons. Est-ce qu'on peut dire peut-être d'ailleurs que le rugby féminin bénéficie aussi pas seulement de ses résultats, mais des mauvais résultats des garçons ?
Alors, il va être compliqué de répondre à cette question pour savoir exactement quelle est la part de désintérêt masculin qui ont permis de se rebasculer sur le rugby féminin. Mais ce qui est indéniable, c'est que la qualité du jeu pratiqué par les femmes est en pleine expansion depuis une dizaine d'années. Il y a eu des très bonnes performances au niveau français qui se sont développées. Et Anaïs le rappelait, il y a eu un grand chelem lors de la dernière saison qui a été absolument exceptionnel. Là, il y a eu un petit accident contre les Anglaises en ce tournoi destination, mais le match qui était proposé la semaine dernière contre l'Irlande était mille fois plus intéressant, plus passionnant à suivre que le match des garçons, où là c'était quand même un peu plus laborieux, même si il faut pas forcément être parfaitement défaitiste, hein. Il y a eu une bonne chose pendant ce match. Il n'y a pas tout qui a été négatif, même si beaucoup de choses ont été négatives.
C'est bien de continuer à avoir
une question de bascule. On se dit pas, on va regarder le rugby féminin ou le rugby masculin, ou on va plutôt regarder les filles que les garçons. C'est, je pense que les gens qui aiment le rugby regardent évidemment les garçons, mais de plus en plus s'intéressent aux filles parce que leurs matchs sont très agréables à regarder. Le match contre la Nouvelle-Zélande cet automne était franchement un très très beau match de rugby, comme les garçons n'en ont pas produit depuis longtemps.
Voilà, c'est aussi un des problèmes sans doute de la sélection française masculine aujourd'hui, c'est-à-dire que des défaites, il y en a eu évidemment par le passé, mais on pouvait peut-être être un peu indulgent avec les défaites lorsqu'il y avait la manière. On a l'impression qu'aujourd'hui, quand on regarde des matchs, le French flair dont on a été auquel on a été nourri quand même pendant des années, avec des joueurs qui avaient des inspirations comme ça, qui sortaient un petit peu du cadre des règles du rugby, mais qui faisaient qu'on a réussissait à marquer des essais, et même si on perdait, on le faisait, je veux dire, avec du style. Ça, on a l'impression que c'est un petit peu disparu de ce sport. Est-ce que vous partagez déjà les uns et les autres ce point de vue, et comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer, Eric Bayle?
Le French flair n'a pas disparu, c'est qu'il a été remplacé, parce que le rugby d'aujourd'hui laisse moins de place à l'improvisation, et c'est un rugby beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré, beaucoup plus professionnalisé, et depuis que le rugby est professionnel, on remarque que l'équipe de France est en chute libre, parce qu'on est vraisemblablement moins sérieux que les autres, moins bien organisé, on travaille moins. Avant, on pouvait se baser sur quelques exploits personnels pour sauver la patrie, parce que les équipes en face étaient d'un niveau, on va dire, relativement moyen. Aujourd'hui, tout le monde a élevé son niveau, sauf les Français. Les coups d'éclat ne suffisent pas, et en plus, nous avons très très peu de joueurs capables d'avoir ces coups d'éclat.
Carole Gomez.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que le rugby français au niveau international a régressé, alors même qu'on considère que le top 14, qui est le championnat de première division, est considéré comme l'un des meilleurs au monde, avec des clubs extrêmement performants qui ont des résultats tout à fait satisfaisants au niveau national, mais également au niveau européen.
Avec beaucoup de joueurs étrangers
avec
dans les clubs.
Avec énormément de joueurs étrangers. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant de voir, c'est que sur le plan des compétitions nationales, il y a un vrai succès des clubs français, avec avec des joueurs de plus en plus nombreux de nationalité étrangère. J'avais fait les statistiques, on a augmenté de... il y a 10 joueurs étrangers en plus tous les 4 ans. Et là, on est à peu près 261 de mémoire sur un total de 700 joueurs. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que la France est une terre d'attractivité pour un certain nombre de joueurs étrangers, même si le nombre de nationalités se compte au final sur quelques doigts. Mais comment, au niveau international, les joueurs français n'arrivent pas à performer et à tenir tête à des concurrents hémisphère nord et hémisphère sud.
C'est un parallèle très facile avec le football anglais, qui est le championnat de football le plus intéressant sur la planète, mais l'équipe d'Angleterre de football, elle, stagne depuis une trentaine d'années, à part quelques exploits très, très ponctuels.
Et c'est un peu l'inverse avec l'équipe de France de foot, hein, d'ailleurs, qui gagne la Coupe du Monde, mais où on voit que ces clubs ont énormément de mal dès qu'il s'agit de jouer en Ligue des Champions. Anaïs Lagogine, vous partagez cette analyse, c'est-à-dire ouais. Aussi d'une sélection dont le niveau baisse, parce que, nous dit Eric Bayle, ça manque aussi peut-être un petit peu de professionnalisme.
Je crois qu'on est dans un rugby où maintenant on analyse beaucoup, on décortique beaucoup ce que va faire l'adversaire. On est beaucoup dans la stratégie aussi. Et on s'inspire, je crois, de plus en plus de ce qui se fait à l'étranger sans trop se concentrer sur nous-mêmes. Donc peut-être qu'il faut retrouver une identité de jeu. Hein. Vous parliez du French Flair, ça vient bien de chez nous. Et peut-être faire un peu le dos rond là sur ce qui est en train de se passer là en ce moment. Il y a beaucoup de négativité autour de cette équipe de France et se recentrer sur nous-mêmes en fait. Je pense que c'est peut-être aussi quelque chose, un axe à réfléchir.
Philippe Callenbrune, vous diriez que le rugby français a un peu perdu de son identité en se professionnalisant et également en s'ouvrant davantage aux joueurs étrangers qui ont peut-être eu pour effet aussi d'uniformiser un peu le jeu qui est pratiqué.
Ben, écoutez, on parle beaucoup du French Flair comme étant quelque chose comme une sorte d'absolu, de ravissement dans la pratique du rugby.
Ne me dites pas que ça n'a jamais existé.
Il y a un petit côté mythique hein, quand on parle du French Flair, mais il faut pas oublier que ça renvoie aussi à une époque où il n'y avait pas de moyens techniques qui permettaient d'espionner l'adversaire. Aujourd'hui, avec le développement de la diffusion du rugby par les télévisions, tout le monde a accès aux images des matchs des autres nations, des autres clubs, etc. Et donc, il est beaucoup plus facile de décrypter l'adversaire, de comprendre ses stratégies à l'avance, avant les matchs, ce qui autrefois n'était pas, évidemment, était beaucoup moins possible en tout cas. Et donc, on avait peut-être, ce rugby était peut-être un peu plus, laissait la porte un peu plus ouverte à la surprise, à l'improvisation, et peut-être même au talent et à l'intelligence des joueurs.
Voilà, donc vous diriez, Philippe Callenbrune, que si le rugby d'aujourd'hui est peut-être un peu moins spontané, c'est un petit peu de la faute d'Eric Bail, qui dirige, je le rappelle,
non,
la rédaction rugby de Canal+. J'essaie de mettre
Eric
un peu de contact, vous voyez, ce soir dans la discussion.
Pour qui j'ai le plus profond respect et amitié, évidemment, mais non, mais je pense que sérieusement, les télévisions ont contribué à faire du rugby un véritable spectacle et elles ont fait énormément de bien au rugby, mais aussi elles ont permis d'obtenir, d'arriver à une certaine uniformisation du jeu parce que, encore une fois, on a pu étudier les équipes adverses et que. Ça, il y a 30 ans, ça n'existait pas.
C'est vrai qu'il faut rappeler quand même qu'avant, alors le top 14, qui ne s'appelait pas le top 14, qui était le championnat de France de rugby, n'était pas télévisé, à part les phases finales. Avec Canal+, on peut voir tous les matchs du championnat. Eric Bail, est-ce que vous considérez que justement que cette médiatisation, elle a eu une influence sur le jeu? Ça a modifié en tout cas la façon de jouer au rugby, que ce soit en bien ou en mal.
C'est pas la télévision qui a modifié la façon de jouer au rugby. La télévision, elle retransmet maintenant beaucoup de matchs. C'est vrai qu'il y a une certaine.
Il y a quand même besoin que ce soit quelque chose de spectaculaire.
Oui,
par exemple, j'ai vu que le temps de jeu, il avait doublé en une vingtaine d'années. C'est-à-dire que.
Oui, mais c'est pas grâce à la télévision. Parce que la télévision lui prête beaucoup, à la fois beaucoup de tort et beaucoup de mérite. Ce qui a changé, c'est qu'à partir de 1995, le rugby est devenu professionnel. C'est-à-dire que des joueurs qui étaient amateurs, qui travaillaient et s'entraînaient deux, trois fois par semaine maximum, ont commencé à s'entraîner deux fois par jour. Et donc, on a assisté avec un passage à l'ultra-professionnalisme, l'amélioration des performances, le développement des gabarits, des techniques d'entraînement, des techniques d'analyse, d'études, d'espionnage, de décryptage du jeu adverse, passant évidemment par les multiples diffusions télé. Et ce train-là, tout le monde l'a pris. En tout cas, toutes les nations développées du rugby et l'équipe de France est restée à la traîne, n'a pas su élever son niveau d'exigence par rapport à un sport devenu professionnel. Les Formule 1, quoi que vous fassiez, les voitures vont toujours de plus en plus vite, quels que soient les règlements. Dans le cyclisme, les coureurs pédalent toujours de plus en plus vite. Aujourd'hui, ils montent l'école tellement vite qu'il n'y a plus d'écart à l'arrivée des courses. Le vélo n'est pas plus intéressant qu'avant, il est probablement moins intéressant, mais c'est une conséquence de l'ultra-professionnalisation et de l'entraînement, voire du surentraînement. Le rugby, c'est la même chose. Donc on court de plus en plus vite. On s'entraîne, on est de plus en plus costaud. On s'entraîne de manière de plus en plus pointue. Et parmi tous les pays majeurs, il y en a un qui a pris du retard, qui n'a pas réussi à se développer à la même vitesse que les autres, c'est le rugby français. Et c'est exactement ce que l'on paye aujourd'hui, puisqu'on est passé on va dire, quasiment dans la deuxième division du rugby mondial.
Mais est-ce qu'il faut véritablement le déplorer, le fait que la France ait peut-être pris du retard par rapport justement à cette professionnalisation ? Est-ce que ça induit en termes d'entraînement ? C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, si les Français sont peut-être moins entrés dans cette brèche-là, du coup, les gabarits n'ont pas forcément autant suivi que les autres joueurs étrangers. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, Carole Gomez ? Et est-ce que ça veut dire aussi peut-être que du coup, on a des joueurs français qui sont moins massifs, moins trapus, et peut-être aussi moins dangereux pour les autres.
Pour le coup, et je rejoins parfaitement ce qu'a dit Eric Bail concernant la relation entre la modification du jeu et la médiatisation, c'est vraiment la professionnalisation qui est la clé de voûte. Et on le voit, 1995 a vraiment été la bascule entre le monde d'avant et le monde d'après. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est important de justement d'avoir un regard très critique sur ce qui se passe aujourd'hui sur le rugby français? C'est le terme qui a été utilisé par Anaïs tout à l'heure, c'était la question de l'identité. Le rugby fait partie de l'identité française et la France a une véritable image de marque en termes de rugby. Si aujourd'hui on n'est plus capable de pouvoir opposer un jeu intéressant de valeur et qu'on se fait sortir aux phases de poule ou contre des équipes qui sont censées être moins bonnes que nous, d'un point de vue politique, d'un point de vue diplomatique, c'est aussi quelque chose qui s'en ressent. Et c'est aussi là qu'il est intéressant d'avoir une perspective peut-être un peu plus politique ou géopolitique en se disant que la diplomatie sportive est aussi basé sur les performances et sur les classements des différentes compétitions. Si la France est beaucoup moins performante, elle pourra moins bénéficier d'une image de marque que ses prédécesseurs et on aura toujours ce discours de se dire c'était sans doute mieux avant puisqu'on était mieux préparé, etc.
Parce qu'il faut bien préciser, pardon, que la France et ses 65 ou 70 millions d'habitants et ses 500 000 licenciés au rugby. Il était logique qu'avant on batte l'Écosse, l'Irlande ou les Fidji. Mais depuis que le rugby est devenu professionnel, c'est petite nation, indépendante ou pas, en tout cas pour les Britanniques, avec leur peu de licenciés et leur peu d'habitants, sont plus performantes que la France.
Sans compter que le nombre de licenciés est en chute depuis un certain nombre d'années, à l'exception, et on peut s'en féliciter, des féminines qui sont passées de 4000, ce qui n'était pas grand-chose au début des années 2000, et qui aujourd'hui est aux alentours de 20 000. Donc ça veut dire que c'est vraiment intéressant et qu'il y a au final une... voilà, un équilibre, non pas un équilibrage puisqu'on en est encore loin, mais qu'il y a une envie de plus en plus importante chez les jeunes femmes et chez les jeunes filles de pratiquer ce rugby.
Et comment est-ce qu'on pourrait expliquer d'ailleurs ce différentiel de performance du rugby féminin français par rapport aux autres nations, Anaïs Lagougine?
Tout simplement, alors pour parler des féminines, parce que c'est ce que je connais, aujourd'hui on a une équipe de France, qu'elle soit à 15 ou à 7, qui performe. Donc on a des jeunes filles, des femmes qui s'identifient très facilement à ces sportives. Donc c'est plus facile de se projeter dans un sport qui réussit que l'inverse. Donc aujourd'hui, je crois que l'année dernière, c'est plus 29% de licenciés. Donc il y a eu un véritable boom hein, entre la Coupe du Monde 2017 et puis surtout, si on parle du 7, il y a par exemple la troisième place au World Series, elles sont vice-championnes du monde. Enfin, voilà, c'est des résultats qui plaisent et qui donnent envie. Donc en plus, quand on les voit évoluer à la télé, on se projette plus facilement. Après, juste préciser que... nous, en général, on n'aime pas être comparé aux hommes et on n'aime pas, surtout pas, dénigrer ce qu'ont pu faire nos homologues masculins. Aujourd'hui, ils sont dans le dur. La professionnalisation dans le rugby féminin arrive aussi. Par contre, on va tâcher de ne pas faire les mêmes erreurs.
Et les erreurs, ça serait quoi les principales erreurs à ne pas répéter?
Ce serait de se plonger dans un professionnalisme avec des œillères, sans prendre en compte la vie personnelle, la vie scolaire, la vie professionnelle. Donc ce projet-là, qu'il soit à 15 ou à 7, il a été pensé avec des anciennes joueuses, il a été pensé avec tout un tas d'intervenants pour réfléchir à une meilleure... organisation, on va dire, du professionnalisme dans un milieu amateur, parce qu'aujourd'hui, les femmes quotidiennement s'entraînent de manière professionnelle sans l'être.
Alors, on parle beaucoup du rugby français depuis le début de cette discussion, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène plus général qui fait que le jeu est peut-être moins agréable à regarder aujourd'hui du fait des conséquences de cette professionnalisation qu'il ne l'était autrefois? Quand on voit par exemple, alors ça c'est des statistiques qui viennent de l'IRMES, l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Le gabarit des joueurs entre, alors c'est une moyenne, hein, par exemple pour les avants, pour ceux qui connaissent ce rugby, sauront de quoi on parle. Coupe du Monde 1987, la moyenne du poids des avants, de toutes les équipes confondues, c'était 102 kilos. C'est passé à 111 kilos 20 ans plus tard. Pour les arrières, qui sont plus légers, c'est passé de 83 kilos à 90 kilos. Philippe Callenbrun, est-ce que quand même le changement de gabarit, qui est quelque chose de général dans le monde du rugby, ça n'a pas eu un impact sur le jeu? C'est-à-dire avec un jeu peut-être plus ennuyeux à regarder, parce que là, je ne vais pas refaire mon coup du French Flair, mais davantage d'impact, davantage de contact, et peut-être un peu moins de réflexion, moins de panache.
Peut-être, oui, mais il faut peut-être revenir un tout petit peu en arrière encore pour comprendre comment on en est arrivé là, pourquoi subitement, avec l'apparition du professionnalisme, les corps se sont développés, musclés, endurcis, etc. L'année 95 a été évoquée tout à l'heure et c'était intéressant puisqu'elle situe globalement le début du professionnalisme. En 95, il y a un joueur qui est peut-être la plus grande star de ce jeu qui s'appelle Jonah Lomu qui a éclaté à la aux yeux du monde et dont l'apparition a été quelque chose de tout à fait inédit, puisque Jonah Lomu jouait trois carrels, donc un poste qui historiquement était plutôt dévolu aux joueurs de gabarit modeste, hein, des rapides qui courent vite, pour simplifier. Et Jonah Lomu a fait entrer le rugby dans une nouvelle dimension. Et tout ce qui s'est passé ensuite est venu de l'hémisphère sud, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de l'Afrique du Sud, derrière lesquels la France et les pays de l'hémisphère nord, de manière générale, n'ont fait que courir. Donc on s'est lancé dans une sorte de course à l'armement. Il a fallu... On s'est rendu compte que ces nations du Sud étaient en avance sur nous au plan de la préparation physique, etc., et que leur supériorité physique leur permettait de nous battre assez régulièrement, d'être meilleurs que nous finalement. Et donc on s'est lancé dans cette course à l'armement pour essayer de rattraper ce retard. Et puis on a glissé progressivement vers un sport qui est devenu, alors moi je dirais pas un sport de brut, je dirais plutôt un sport brutal, avec en 2007, souvenez-vous, le phénomène Sébastien Chabal, la Chabalmania. Qu'est-ce que c'est? C'est un garçon qui est un bon joueur de rugby, mais certainement pas le meilleur du monde à son poste, qui a à nouveau fait un buzz médiatique terrible. En faisant quoi? Non pas en marquant des essais ou en réussissant des passes formidables, mais en cassant la mâchoire d'un joueur néo-zélandais sur un contact, et puis lors du match suivant en administrant un énorme plaquage extrêmement spectaculaire.
Daniel Herrero dans le journal Le Monde, alors ça date de 2014, mais vous allez me dire si vous considérez que ça reste vrai aujourd'hui, disait ceci. Daniel Herrero, grand joueur de rugby, entraîneur du RC Toulon à l'époque, enfin ça continue à
champion dans les années 80,
en tout cas voilà, champion de France. Il disait ceci: la transformation sociale et institutionnelle du jeu de rugby a mis en veilleuse notre potentiel créatif. Quand une muraille se trouve face aux joueurs, ils n'ont aucune réflexion, ils foncent droit dedans, car maintenant seule la victoire compte. Et il dénonçait déjà les risques que cela pouvait provoquer sur l'intégrité physique des joueurs. Eric Bail.
Ouais, moi je suis pas d'accord avec le c'était mieux avant, parce que j'ai une petite expérience de commentateur, et puis j'allais dans les stades de rugby, j'avais 5 ans, donc ça remonte un petit peu. Hélas,
c'était peut-être moins dangereux quand même avant.
Oui, mais on s'ennuyait pas. On s'ennuyait plus. Les matchs étaient lents. Les joueurs se replaçaient tranquillement. Les mêlées, les touches, ça allait à deux à l'heure. Le rugby d'aujourd'hui est beaucoup plus spectaculaire. On s'ennuie beaucoup moins dans les tribunes. Alors, désolé si je fâche quelques anciens. Alors après, qu'il y ait une forme de jeu stéréotypée, mais quand vous regardez jouer les All Blacks ou les Anglais, aujourd'hui, des équipes qui maîtrisent le jeu à la perfection, le Stade Toulousain ou Clermont en France, vous ennuyez pas du tout, hein. Vous ennuyez pas du tout. Et en plus, dans le championnat de France, le top 14, que j'ai le plaisir de commenter, vous avez des équipes qui ont des styles de jeu différents. Des affrontements de style, Toulouse face à Castres, Clermont face à Toulon,
c'est intéressant. On s'ennuie pas du tout. Alors après, qui est un petit peu une politique de rentre dedans et qui entraîne les problèmes de blessures, on va en parler. Mais de dire qu'aujourd'hui le rugby est plus ennuyeux qu'il y a 20 ans ou 30 ans, je suis pas d'accord.
Carole Gomez.
Pour le coup, c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, c'est que le rugby a toujours été un jeu où les joueurs pouvaient prendre des risques. Et on a aujourd'hui tendance à se focaliser, à juste titre, sur un certain nombre d'accidents, parfois mortels, de joueurs.
Oui, parce que ça, c'est quand même relativement inédit. C'est-à-dire, il y a quand même eu 4 décès sur les terrains en moins d'un an. Enfin, en tout cas, dû
à la pratique liée au rugby.
Il y avait quand même des alertes, en plus, qui étaient lancées, notamment par un neurochirurgien clermontois, disant, attention, un jour, ça va arriver, il va y avoir un mort, et c'est à ce moment-là qu'on va finir par se réveiller. Les morts, ils sont arrivés.
Pour le coup, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le rugby, on a retrouvé, si on se penche dans les archives, on rencontre des blessures parfois mortelles de joueurs dès le début de la pratique. 1920, il y a un match entre la section paloise et le Sporting Union à Genève, où un joueur décède sur le terrain. Exactement la même chose avec l'UBB. Enfin, alors à l'époque, c'était le Stade Bordelais qui décède sur le bord du terrain. Et il y avait aussi la question des mêlées, qui étaient extrêmement violentes et dont il a fallu changer. Et au moment où il y a eu tellement de blessures, parfois complètement paralysantes pour les joueurs et les joueuses, que World Rugby, donc avant l'IRB, a décidé de changer les règles parce qu'il y avait un danger trop important pour les personnes qui s'y présentaient. Et ce qui était aujourd'hui, ce qui aussi pousse à la réflexion et à l'action par rapport à cette question-là, c'est de se dire, on voit qu'il y a un problème potentiellement sanitaire important aujourd'hui et surtout dans les prochaines années, quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Puisque là, on est juste dans une question de cinétique. Là, on va plus vite, les corps sont plus lourds, c'est de la physique de lycée, mais c'est aussi ça qui...
Et les joueurs courent tellement que les terrains sont devenus trop petits. Oui. Allez, on reste toujours à 15 contre 15, mais les joueurs couvrent une surface de terrain beaucoup plus importante qu'il y a 20-30 ans. Du coup, il n'y a plus d'espace, et quand il n'y a plus d'espace, effectivement, le plus court chemin reste à la ligne droite, et donc les chocs frontaux.
Il y a justement un auditeur qui m'a envoyé un petit message ce matin en disant, en prévision de l'émission de ce soir, en disant, mais pourquoi est-ce qu'on n'élargit pas finalement les terrains aujourd'hui? Ça permettrait d'avoir plus d'espace et donc moins de chocs. Vous en pensez quoi, Anaïs Lagougine, même si ça se pose peut-être pas dans les mêmes termes, justement, la dangerosité de ce sport quand on est chez les féminines, encore que, je ne sais pas, peut-être qu'il y a aussi beaucoup de commotion.
On a tendance à dire que chez les féminines, on pratique un rugby d'évitement, mais le combat y est réellement. Alors on est moins sur des phases de collision avec des chocs trop importants, mais on est plutôt, on va aborder en fait on va dire l'affrontement un peu différemment, peut-être. Alors là encore une fois, hein, ça dépendra aussi des directives de l'entraîneur, mais on est plutôt sur des épaules faibles, sur des petits espaces, voilà. Élargir les terrains, la question se pose pas pour les féminines. Je crois qu'on est sur une bonne taille de terrain. Il y a eu la question de la taille du ballon aussi qui avait été posée à un moment donné. Chez les garçons, c'est vrai qu'ils ont amélioré leur technique de passe aussi. Je crois qu'ils sont aussi sur des longueurs de passe bien plus importantes, la vitesse qui est engagée. Donc du coup, ça demande beaucoup plus de stratégie ou en tout cas de réactivité sur l'action qui est entreprise.
Sur la question de l'agrandissement du terrain, il y a une réponse assez facile quand même pour vos auditeurs. Le problème s'appelle les tribunes.
Voilà.
C'est-à-dire que pour agrandir le terrain, c'est une très bonne idée. Le seul problème, c'est qu'il faut bouger toutes les tribunes, déconstruire les stades et les reconstruire ensuite. Donc ça va poser quand même des
problèmes. Ou alors il y a une autre solution, c'est réduire le nombre de joueurs et passer sur du rugby à 7. Il y a cette solution-là.
Ce que vous disiez tout à l'heure, Carole Gomez, d'ailleurs, par rapport au fait que, en cherchant un petit peu dans l'histoire, on se rendait compte aussi que c'était un sport brutal. Moi, je me souviens, il y avait quelques années, j'avais reçu un certain Sébastien Darbon qui avait écrit une brève histoire du rugby. J'avais été très surpris parce qu'il racontait notamment d'ailleurs qu'au tout début, alors il n'y avait pas vraiment de règles, il pouvait y avoir jusqu'à 200 joueurs sur le terrain et que les mêlées, elles duraient jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais enfin, il y avait un petit côté comme ça et qu'on mettait les plus faibles en face des attaquants parce que c'était eux qui prenaient en premier et qui permettaient de limiter leur progression. Alors là, évidemment, ça
s'appelait pas rugby à l'époque. Hein.
Oui, alors voilà,
c'était l'ancêtre du
rugby. Oui, parce qu'il faut rappeler que le foot et le rugby ont un ancêtre très très commun. Philippe Kallenbrunn, sur la façon en tout cas de réagir aujourd'hui que peut avoir le monde du rugby quand même par rapport à ces accidents graves qui touchent pas seulement d'ailleurs le rugby professionnel, ça touche aussi le rugby amateur. Est-ce que vous avez l'impression que le milieu rugbystique français a pris véritablement conscience du problème?
Oh oui, je pense que la prise de conscience maintenant, elle existe. Les drames de ces derniers mois ont manifestement fait accélérer les choses. Hein. Tout simplement pourquoi? Ben parce qu'il en va de l'avenir de ce sport, tout simplement. Hein. Comment ne pas réagir quand des joueurs meurent sur le terrain? Ce serait totalement absurde. Alors il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se passer. À titre d'exemple, par exemple, la semaine prochaine, il y a un grand symposium mondial qui va être organisé à Marcoussis, hein, sous l'égide de la Fédération française de rugby. Il y a un certain nombre de dispositions aussi qui sont à l'étude sur l'amélioration, enfin la modification de certaines règles du jeu, sur les techniques de plaquage. En France aussi, on s'achemine vers une refonte de la catégorie espoir, hein, donc ce sont les joueurs âgés de 18 à 23 ans qui seront à partir de la saison prochaine scindés en deux catégories, puisque faire s'affronter des jeunes joueurs de 18 ans avec des joueurs de 23 ans beaucoup plus endurcis était une erreur, hein, quelque chose d'assez illogique. Voilà, donc les choses bougent, mais sans doute pas encore suffisamment et sans doute pas assez vite, parce que malheureusement, eh bien, on n'est pas à l'abri de nouveaux drames, sans vouloir être alarmiste, mais on n'est pas à l'abri de nouveaux drames là dans les semaines ou les mois qui viennent sur des terrains de rugby.
Il y a quand même des protocoles qui ont été mis en place. Il y a le fameux protocole commotion qui existe. Alors pour le rugby professionnel, Eric Bail, pour le rugby amateur, c'est un peu plus compliqué parce que les accidents, ils arrivent aussi, je le disais, dans le monde amateur, avec là une difficulté, c'est-à-dire d'avoir un suivi médical.
Bien sûr, l'encadrement est plus faible sur le rugby amateur. Alors il y a une règle qui a été mise en place, c'est la règle du carton bleu qui permet à l'arbitre, mais l'arbitre n'est pas médecin, mais lorsqu'il décèle des signes d'une commotion, de sortir le joueur pour qu'il ne revienne plus sur la pelouse. Évidemment, les professionnels sont beaucoup mieux encadrés. Il y a même un système d'écran vidéo aujourd'hui qui permet aux médecins de revenir un petit peu en arrière sur l'action pour vérifier constater si le joueur a donné quelques signes de commotion et de cette manière pouvoir agir et le sortir le plus rapidement possible.
On a vu hier. Il existe aussi dans le rugby féminin, Annalys Lagogine.
Nous ne l'avons pas dans le championnat élite 1, pas encore.
D'accord, et c'est quelque chose du coup qui peut être aussi intéressant pour le rugby féminin, c'est-à-dire d'avoir quand même ces garanties que s'il y a un choc, s'il y a une commotion, le joueur ou la joueuse puisse être traité rapidement, écarté du terrain si c'est nécessaire.
De toute manière, tout ce qui va s'organiser autour de la protection du joueur, de la joueuse est nécessaire. Donc ce carton bleu, nous on l'attend aussi avec impatience. On sait que ça va pouvoir au moins déceler certaines joueuses qui nous, sur le bord du terrain, en tant qu'entraîneur, on ne voit pas forcément ce qui se passe.
Pour ceux qui suivent le football, vous avez vu hier lors du match de Lyon contre Barcelone, le gardien lyonnais qui a été blessé sur un choc, vraisemblablement commotionné, il a eu du mal à se relever, et qui est sorti par la suite, qui a déclaré dans la presse qu'il avait ensuite subi des vomissements, des nausées, etc. C'est général au sport où il peut y avoir du contact. Le rugby, évidemment, en particulier.
Voilà, le rugby, c'est un sport de contact. Est-ce que c'est pas aussi, et peut-être un des problèmes qu'a pu rencontrer ce sport, même si aujourd'hui, vous le dites tous, il y a une prise de conscience, c'est-à-dire d'être aussi dans ce mythe d'un sport viril où on est là aussi pour prendre des coups et finalement on finit toujours par s'en relever. On en rigole à la troisième mi-temps, Carole Gomez.
Le problème, c'est que le rugby, s'il voulait pendant un certain nombre d'années ne pas forcément faire face à ces problèmes de commotion et ces problèmes de choc physique extrêmement fort, compte tenu des récents événements des dernières années et des drames qu'il y a pu avoir sur les terrains comme à l'extérieur des terrains, est obligé de faire face à cette question-là. Et c'est aussi aujourd'hui, et ça a été répété dans un certain nombre d'articles et d'émissions, la plus grande crainte, hein, c'est que l'accident mortel arrive demain et qu'on n'ait pas su le prévenir, qu'on n'ait pas su le préparer. Et alors si la question du carton bleu, si la question du protocole commotion, il y a aussi eu des films sur qu'est-ce qui se passait pendant ces protocoles commotion pour aussi permettre aux gens de comprendre et aux joueurs de comprendre les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas rentrer, qui peut être une frustration pour eux. Ce qui va être hyper important aujourd'hui, ça va être toute la pédagogie, toute l'éducation. et Philippe Calambrune le précisait, il va y avoir une modification non pas des règles, mais des techniques sur les plaquages. Il va y avoir des modifications des règles du jeu, comme ce que je disais tout à l'heure sur les modifications des règles de la mêlée, où il y avait un problème, ou pour les plaquages cathédrales, qui était quelque chose qui était extrêmement spectaculaire, mais profondément dangereux, où il y a eu une interdiction qui a été proclamée par World Rugby, et qui a permis non pas de régler le problème, mais au moins de les limiter. Et s'il y avait un plaquage cathédrale qui était effectué, il y avait systématiquement une sanction qui intervenait derrière.
Mais attention, il faut protéger les joueurs contre eux-mêmes, si j'ose dire. Parce que les joueurs considèrent que le combat fait partie de l'ADN du rugby, et que les nouvelles règles pour limiter le plaquage, le baisser au niveau de la ceinture, par exemple, pour éviter les commotions, sont de nature à édulcorer, voire à dénaturer leur sport. Donc vous avez
les joueurs et les entraîneurs peut-être aussi, non?
Surtout on a aussi une grande responsabilité en tant qu'entraîneur, manager, sur les mots employés, l'essence qu'on veut donner à notre sport. On est là pour orienter, guider les joueurs.
Et quand on est dans le match et quand on est dans le stress de la compétition, on y pense aussi. Petit témoignage de l'entraîneur de Yona, enfin je crois qu'il est directeur sportif maintenant, c'est Adrien Buononato, qui disait ceci par rapport justement au risque. Quand on est dans le stress de la compétition, qu'on a un joueur au sol, on pense d'abord au match, c'est-à-dire on n'a pas toujours le réflexe de, on se dit bah voilà, il faut vraiment qu'il reste peut-être sur le terrain si on peut plus le remplacer, parce que ce qui compte d'abord c'est de gagner le match. Il disait pas qu'il fallait le faire, hein, mais en tout cas il évoquait ce réflexe-là aussi.
Je vais vous dire, j'ai vécu d'assez près malheureusement le décès de Nicolas Chauvin dans mon club au Stade Français Paris. Aujourd'hui on a une réelle discussion entre dirigeants, entraîneurs sur la manière dont on allait aussi aborder notre pratique et comment on allait amener nos joueuses, parce que là ce sont les joueuses du Stade Français, à cet acte qui est de plaquer, de percuter, voilà. Donc aujourd'hui, ça c'est une priorité, c'est la protection du joueur et de la joueuse. Donc la manière dont on va dire l'engagement du match, oui, on peut se laisser prendre au jeu, mais il y a un moment donné, il faut se raisonner. Ça reste un sport quand même.
Et puis c'est aussi une façon de rassurer les parents qui inscrivent leurs enfants dans des clubs. J'évoquais un auditeur qui m'a envoyé ce mail sur l'élargissement du terrain. Il y en a un autre alors qui a envoyé un message beaucoup plus long. C'est un ancien joueur de rugby. Il a joué dans les années 60, disait-il dans son message. Et puis il a arrêté de regarder justement parce qu'il trouvait que la façon dont ce sport avait évolué lui déplaisait. Donc c'était une façon aussi de marquer sa désapprobation. Et il termine son message en disant ceci: j'ai 6 petits-enfants et je les inciterai à ne pas pratiquer ce rugby, Philippe Calambrune. C'est-à-dire, est-ce que ce sport est aussi peut-être menacé de désaffection? Pas seulement, bien sûr, parce que le 15 de France, en ce moment, ne joue pas très bien, n'est pas très agréable à regarder, mais aussi parce qu'il peut y avoir de l'inquiétude.
Oui, mais ça c'est certain. Il y a même d'ailleurs des joueurs de rugby pas si vieux que ça, des joueurs qui ont arrêté leur carrière il y a pas très longtemps, qui ont eux-mêmes déclaré que ils ne mettraient pas leurs enfants au rugby. Donc c'est voilà, on en est là. Donc oui, il y a un risque de désaffection. Je crois que la baisse du nombre de licenciés, pas chez les filles, parce que chez les filles au contraire le nombre de licenciés augmente, mais chez les garçons significative à cet égard. Les parents, certains parents ont pris l'initiative il y a peu de temps là de monter d'ailleurs une fédération, une sorte de fédération des parents de joueuses et joueurs de rugby pour bien peut-être réfléchir à mener des actions de type class action un peu à l'américaine, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc il y a des conflits juridiques probablement à venir. Qui pose souci bien évidemment aux clubs et aux instances du rugby aujourd'hui. Hein, je sais aussi qu'il y a beaucoup d'avocats qui s'intéressent à ces questions-là aujourd'hui parce que les risques contentieux sont réels. Il y a un joueur là qui a d'ailleurs attaqué son ancien club. Il s'agit de Jamie Cudmore, l'ancien joueur de Clermont. Ce sont des actions qui vont être amenées à se répéter. Et je crains pour le rugby qu'il soit l'objet dans peu de temps de ce type d'action en justice qui évidemment, serait une contre-publicité supplémentaire.
Et juste un mot, Carl Gomez, pour terminer, pardonnez-moi, Philippe Kellenbrunn, ça, ce sont des questions qui se posent aussi ailleurs, dans d'autres grands pays de rugby.
Oui, bien sûr, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir que comment est-ce que des fédérations comment des fédérations étrangères, mais également les fédérations internationales, prennent ce sujet très à cœur et essayent de faire évoluer les logiques. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est on a beaucoup parlé de rugby à 15, un peu de rugby à 7, mais il y a aussi le rugby à 13 qu'il ne faut pas oublier.
Voilà, le rugby à 13 qui s'est professionnalisé bien avant le rugby à 15. Ça ne nous empêchera pas, là on a évoqué un certain nombre de choses sur le rugby, de regarder le tournoi destination masculin et féminin et de supporter Clermont pour le top 14. N'est-ce pas, Eric Bail?
Non, vous êtes obligé d'être honnête commentateur neutre, mais je comprends.
Si je voulais le caser. Merci en tout cas à tous les quatre, Eric Bail, Philippe Kellenbrunn, Anaïs Lagogine et Carole Gomez. Merci aussi aux équipes de France Bleu à Toulouse pour avoir assuré le duplex. Et merci à l'équipe du Grain, Léa Capuano, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster, Cyril Marchand. Émission réalisée par Pierre Legras avec à la prise de son Pascal Baudin. Dans un instant, vous retrouverez Arnaud Laporte et la dispute. Dispute spéciale ce soir. À quoi bon la littérature dans un monde d'images? Il reçoit des écrivains, Christine Montalbetti, Sabrina Calvo, Gérard Nordilla et Aurélien Bélanger. Et tout ça, c'est au Salon Livre Paris qui est inauguré ce soir.